Je sors des toilettes il y a environ 5 minutes et je me suis lavé les mains. Vous savez qu'on peut se laver les mains de deux façons. Et puis à l'acha, il suffit de se laver les mains sous le robinet, pas besoin de faire Netilat Yadayim. Pour avoir plus de pureté, alors c'est bien de faire trois fois avec le kil, avec l'ustensile. Je me suis dit, pour le sujet que je vais traiter maintenant, je crois que je dois aller au Mikvé, parce que je vais parler du Saint des Saints. Dans une semaine, c'est le Yortzeit, c'est l'anniversaire du décès de Moren Mourabeno, le Rav Ben Sion Abashaoul, Zechat Tzadik et Kadosh Livracha. Donc le Rav Ben Sion Abashaoul est un des plus grands rabbinim qui est connu de notre génération, si pas le plus grand. Difficile pour moi de juger, parce que qui sommes-nous pour savoir qui, quoi, comment. En tout cas, dans une semaine, c'est son Yortzeit, je pense que c'est utile un peu de raconter le peu que nous savons de sa grandeur énorme. Il y avait un des plus grands kabbalistes de ce siècle, si pas le plus grand aussi, lui aussi. Il s'appelle le Rav Israël Salman Mutsafi. Le père de Rav Ben Sion Mutsafi, aujourd'hui très connu. Le Rav Ben Sion Mutsafi, c'est un des grands rabbanim qui est très bien. Son Rav, c'était un mekoubal énorme. Il avait rêvé avant la Seconde Guerre mondiale, il avait vu un serpent à trois têtes. L'Allemagne, l'Italie et le Japon, et il pouvait couper les trois têtes. Mais il a dit que du ciel, on l'a empêché. On lui a dit qu'il fallait passer un tzaddik extraordinaire, d'une humilité. Rien que voir sa photo, qu'on voit qu'il prie tellement en humilité, ça donne l'humilité déjà de voir. Et il a dit, sur le Rav Ben Sion Abashaoul, que personne n'a pu pénétrer, ne peut pénétrer la profondeur de sa grandeur. On ne sait pas quelle était la grandeur de cet homme-là. Rav Ben Sion est décédé donc en 1998, le 19, le jour de son anniversaire, c'est le 19 Tammuz. Et il est né d'une famille d'origine perse. Ses grands-parents habitaient la Perse, dans un village. Des gens simples, mais d'une très grande crainte du ciel. Et c'était à l'époque où il y avait le début du sionisme. C'est les années 1920, quelque chose comme ça. Et le dirigeant de ce musulman, de ce village, a forcé tous les juifs à se convertir à l'islam, ou sous peine d'expulsion du village. Toute la famille n'a pas hésité, ils sont tous expulsés, ils sont partis en Eretz Israël, ils sont venus difficilement arriver à Jérusalem. Le père de Rav Ben Sion était un cordonnier, mais qui est tout à fait simple, mais un homme d'une très grande grandeur d'âme, un tzaddik, qui étudiait la majorité de son temps, qui pouvait, l'étude de la Torah, jusqu'à minuit. À minuit, c'est Tikkun Chatzot. Il étudiait avec les grands de la Torah de l'époque. Et il se levait déjà à 3 heures pour une autre étude, et ainsi en plus du travail. Un homme qui avait un amour des Talmidei Chachamim extraordinaire. Il y a eu, il y a quelques dizaines d'années, il y a eu un rabbin ici qui avait un rôle dans l'État d'Israël. Il a fait une chose qui était très très déplaisante aux yeux de tout le monde religieux, et dans le monde religieux, ils ont décidé d'aller à la Kikar HaShabbat, donc en plein le centre de Géoula de Mea Shearim à Jérusalem, ici, et ils ont fait une grande manifestation où tous ont déchiré leur chemise par rapport à la décision qu'avait prise ce soi-disant rabbin. Bon, en rentrant, tout le monde parle, et il a fait comme ci, il a fait comme ça. Le prêtre de Rav Ben Sion dit déchirer, il y a une mitzvah, mais parler, qui a autorisé? Après tout, c'est un Talmid Chacham. Bien que c'est un Talmid Chacham, un sage d'Israël tordu, c'est quand même quelqu'un qui étudie la Torah. Il avait un kavod extraordinaire. Il a raconté une fois à son fils que lui, il était aussi, donc il s'occupait, le grand-père de Rav Ben Sion, quand ils sont venus de Perse, ils ont monté une synagogue ici, qui s'appelle Oel Rachel, qui existe jusqu'à aujourd'hui, dans une synagogue où il y avait la façon de prier était de tous ceux qui sortaient, tous les immigrants de Perse. Et donc le père de Rav Ben Sion s'occupait de cette synagogue, c'était le Gabaï. Et il était aussi Shaliach Tzibour. Il était connu comme étant un Shaliach Tzibour de très grande qualité, il pleurait en priant. Et étant aussi donc Shaliach Tzibour spécialiste, il savait reconnaître les erreurs de prononciation quand quelqu'un parlait bien prononcé. Il faut être un grand baki, un grand connaisseur en grammaire juive. Une fois il a dit à son fils Rav Ben Sion, très souvent je vois des Talmidei Chachamim, des sages d'Israël, qui montrent qu'ils font la prière, mais ils font des erreurs. J'ose pas leur dire, comment je peux leur dire? C'est un Talmid Chacham. Comment je peux parler, aller, moi, petit que je suis, aller dire à un Talmid Chacham qu'il a fait une erreur? et un amour de la Torah, un amour de tout ce qu'avait avec la sainteté. Comme je dis, il s'occupait de nettoyer la synagogue, et un jour il est venu, il n'y avait pas de serpillière pour nettoyer, pour passer la serpillière par terre. Tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa chemise, et il a trempé dans le seau que savon, et comme ça il a... L'amour. Quand les avrechim venaient, vous savez que sur la Teva, des fois ici en Israël, il y a des pics comme ça. À quoi ils servent? C'est pour mettre les rimonim. Pour mettre les rimonim, ce sont les grenades littéralement, ce sont d'accord des sortes de pièces en argent qu'on met sur le Sefer Torah. Et avrechim très souvent venaient et posaient leur chapeau. Quand c'est pas la prière, tout ça, tu as des pics comme ça, c'est idéal pour mettre le chapeau, pour qu'il tienne bien. Lui, ça mettait hors de lui. Comment est-ce qu'on peut oser mettre un chapeau sur un instrument qui est là pour soulever, pour maintenir les instruments du Sefer Torah, la sainteté de la synagogue? La mère de Rabban Sion aussi était une grande sadekette. Dès qu'elle a su qu'elle était enceinte de son fils, au début, c'est pas que c'était son fils, elle avait pas à l'époque, il n'y avait pas les ultrasons, comment appelle ça en français, il n'y avait pas à l'époque les échographies. Elle a eu, d'ailleurs, elle a eu beaucoup de filles, ils ont eu beaucoup de filles. Le premier garçon qu'ils ont eu, c'est la Rabban Sion, d'accord, mais ils ont eu 4-5 filles auparavant. Chaque fois qu'elle savait qu'elle était enceinte, elle allait voir tous les hachamim, tous les sadikim, elle allait prier pour que ce soit un garçon et qu'il soit un tamid chacham. Elle allait passer des heures à l'entrée des yeshivot pour que son fils écoute dans le ventre la voix de la Torah. D'ailleurs, le Rabban Sion raconte que des fois il marchait dans la rue pour aller, et tout coup il passait près d'une yeshiva, il entendait la voix de la Torah, il s'arrêtait comme ça, pétrifié, il dit « qu'est-ce que j'ai envie de rentrer maintenant? Quel bonheur j'aurais d'aller d'étudier maintenant la Torah ?» Ça marche bien, la Gma par le rabbi Yeshua ben Hanania. C'est marqué que sa mère, Ashrayolato, bien heureuse est sa mère. Pourquoi? Parce que quand il est né, elle a mis le berceau près dans la yeshiva pour qu'il écoute Torah. La mère de Rabbi Sion raconte qu'elle aussi, elle s'arrangeait toujours pour que le berceau aille comme ça près de la voix de la Torah, qu'il écoute la Torah. Et quand les enfants sont nés, ils revenaient de l'école. Mais venez, je vais vous respirer. Est-ce que vous avez une odeur de Torah? Raconte-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Une mère qui est inquiète que ses enfants soient des Talmid Chachamim. Je me souviens, j'ai eu la chance énorme de fréquenter beaucoup la famille du Rabban Sion. Et quand il parlait des gens, alors on parle des gens, on fait des compliments. Il est gentil, il a de bonnes midotes, mais le compliment, le suprême qu'on entendait dans cette maison, c'était Saint Talmid Chacham. Quand on est sur quelqu'un, Saint Talmid Chacham, ça veut dire c'était le nec plus ultra, l'amour de la Torah. Comme ça doit être, Talmid Chacham, c'est... C'est la Merkava, c'est le chariot de la Kajvohu dans ce monde. Rabban Sion est rentré dans sa jeunesse, étudié dans la yeshiva de Porat Yosef. Porat Yosef, c'est la yeshiva sfaradite qu'il y avait à l'époque en Israël. C'était le Ben Ishraï qui a demandé à un grand riche de Calcutta, à l'époque, c'est le Rav M. Shalom, comme il s'appelait, d'acheter un terrain près du Kotel, dans la vieille ville, dans lequel on étudierait le pshat, le sens simple, il y aurait une petite yeshiva dedans aussi, où il y aurait au moins 10 personnes qui étudieraient la Kabbalah. Ben Ishraï est très très grand Kabbalah, et ce riche a fait beaucoup beaucoup d'efforts pour arriver à acquérir ce terrain, construire une yeshiva qui était fantastique, très très belle, elle a été détruite en 1948 lors de la guerre d'indépendance, les Jordaniens ont conquis la ville de Jérusalem, la vieille ville, et la yeshiva a été détruite, et elle a été déportée à Géoula. Aujourd'hui, que la vieille ville a de nouveau été reconquise, alors il y a deux yeshivas pour Atosef. Il y a la yeshiva de Géoula et la nouvelle yeshiva qui est celle de Hiratika de la vieille ville. Quoi qu'il en soit, ce riche monsieur Shalom a dit qu'il a souffert énormément pour arriver enfin à construire ce bâtiment à cet endroit-là et que ça procure un bonheur énorme de savoir que maintenant, près du Kotel, à l'époque il n'y avait pas grand-chose, il y a un endroit où beaucoup de jeunes étudient la Torah et aussi dedans donc ces petits yeshivas de Kabbalah qui plus tard sera la graine d'une autre yeshiva, le Rabbi Sion Abba Shaul. C'est un grand prosèque, très féroce en Kabbalah, mais il n'a pas le temps d'étudier suffisamment la Kabbalah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lui-même, il payait une dizaine de avrechim, donc de personnes qui lui la Torah, mais avrechim, la moyenne d'âge, c'était 60-70 ans, d'accord, des plus grands kabbalistes de Jérusalem pour étudier la Kabbalah dans cette yeshiva. Et il venait une fois par année leur faire un examen. Il paraît que le Rosh Yeshiva de cette yeshiva de Kabbalah, le Rav Tawil, c'est un des grands kabbalistes de Jérusalem, il préparait des semaines à l'avance le sujet sur lequel on allait parler, et il tremblait, savoir que le Rabban Sion allait arriver pour l'examiner. Le Rabban Sion venait, il ne savait même pas de quoi, il ne connaissait pas le sujet, il venait comme ça, allez, quand on parle, allez, c'est ça le sujet, et il commençait, examiner tout ça, tous. Bon, c'était un très grand Kabbalah aussi. Quoi qu'il en soit, donc, dans sa jeunesse, il étudiait dans cette yeshiva de Porat Yosef. Le Rosh Yeshiva s'appelait le Rav Ezra Atiyeh, Chacham Ezra. Le Rav Ezra Atiyeh, qui lui est originaire de Syrie, et qui a été, on peut dire, à l'origine de tous les grands rabbanim faradim de notre génération. Le Rav Yosef, bon, inutile de présenter, connu, qui est le plus grand rabbin sfarad aujourd'hui dans le monde, était dans la même classe que le Rav Ben Ismaël Bachaoul. C'était, je crois, la première classe qui a été ouverte là-bas, ou la deuxième, une des premières classes. Et le Rav Ben Ismaël raconte que les deux partaient à l'Eshiva le matin, depuis la ville nouvelle jusqu'à Vévi, c'était 25 minutes de marche à pied. Et qu'est-ce que faisait-il dans les 25 minutes? Eh bien, il faisait par cœur tout le shiur qu'ils ont entendu hier du Rav Chacham Ezra, il leur faisait comme ça par cœur. Et quand ils sortaient, revenaient en ville, les deux ensemble, chavruta sur la route comme ça, ouvert à Rabbaderech, et mitzvah d'étudier la Torah en route. On dit juste en passant que le Rav Ben Sion, il a plus étudié la Torah hors de la Yeshiva que dans la Yeshiva. Le pauvre, il a beaucoup souffert dans sa vie, il a fait beaucoup d'hôpitaux, lui, sa femme, énormément. Il étudiait beaucoup plus hors de la Yeshiva que dans la Yeshiva. Dans la rue, tu le voyais, il est comme ça, sans cesse, sa tête était prise en Torah. D'ailleurs, il dira un jour, il dit, un élève de Yeshiva doit avoir une seule préoccupation, une seule inquiétude, de faire attention de ne pas penser des vrais Torah dans les endroits où on n'a pas le droit de penser, dans les toilettes, dans la douche, près d'ordures qui sentent mauvais. Parce que un Bahur Yeshiva, sa tête, comme ça, lui pense, elle doit être prise sans cesse en Torah. Et il doit se réfréner d'étudier la Torah lorsque tu es dans les toilettes. T'as un flot de Torah qui vient. Essaye, pendant 2 heures, tu dis une Gemara. Mais bien comme ça, sans cesse. Après, tu vas aux toilettes. À quoi tu penses? Ah bah, Rava, comme si j'attirais. Et très souvent, t'attirais dans les toilettes. Le citra, le côté négatif, il veut que tu aies de la Torah dans les toilettes, parce que ça va à son côté. Le Zohar, il est très marmin. C'est un lave de roi, c'est interdit de la Torah, de penser des livres de Torah dans un endroit qui est interdit. Et c'est marqué dans le Zohar que le citra, le côté négatif, il se bat énormément pour avoir ce flux de Torah. La Torah, c'est la chose la plus haute qu'il y a, pour avoir un peu de ce flux de Torah. Alors, Benson, penser, c'est de Horaïta. Dibour, d'avoir, c'est face à une Erva. Face à une Erva, tu as le droit de penser des vrais Torah. Tu vois quelqu'un qui est tout nu, tu peux penser des vrais Torah devant. Mais un endroit qui ne sent pas bon, c'est des Horaïta de penser. Alors, Benson disait que c'est très important d'aller au Mikvé. Il disait ce que le mikvé peut faire, aucune mitzvah ne peut faire, en pureté. Ce que le mikvé peut faire, aucune mitzvah ne peut faire. Donc il allait au mikvé tous les jours. Mais aller au mikvé, c'était 30 secondes. Sortir. Pourquoi? Il dit, j'arrive pas à me retenir, divrei Torah. Ma tête pense divrei Torah. Dans le mikvé, ça sent mauvais là-bas, c'est les douches, on peut pas penser. Donc il faisait ça très rapidement pour sortir suffisamment vite, pour enfin respirer, avoir divrei Torah. Donc, sur la route, il étudiait. Et ils ont toujours été les meilleurs amis du monde, le Rav Ben Sion Abachoul et le Rav Odi Yosef, bien que je crois que difficilement il y a une décision ilkhatique sur laquelle ils sont d'accord. Ils sont toujours pas d'accord. D'accord, c'est les meilleurs amis du monde. Ils ont habité dans le même bâtiment pendant une dizaine d'années. Ils étudiaient ensemble la Torah, dans des conditions de pauvreté extrêmes. Rav Ben Sion, un jour, il racontait qu'est-ce qu'on mangeait. On prenait le pain, on l'ouvrait en deux, on versait dedans du café, et on fermait le pain, et comme ça, c'était ça, non? Notre pas, quand on avait du pain frais, il dit la Torah, dans des conditions très difficiles, en hiver, le plafond, il goûtait, et c'est pas grave d'étudier quand tu as toujours des gouttes qui tombent sur le carnet. Qu'est-ce qu'il faisait? Rav Ben Sion mettait la main comme ça au-dessus de Rav Ovadia, et Rav Ovadia mettait la main sur Rav Ben Sion comme ça, et les deux étudiaient comme ça la Torah. Et le premier livre qu'a sorti Rav Ovadia, c'était un livre sur Chazon Ovadia. Chazon Ovadia sur Ilchot Pessah, le soir de Seder et le Chot Pessah. Il a fait une akdasha, une dédicace au Rav Ben Sion Abashaoul, la Chvod Yedidi, mon ami, et il met toute une série, alors j'ai la photo du livre, on va la première, alors toute une série de mots comme ça, et à la fin, Rav Ben Sion Abashaoul, Shalita, etc. Son ami, Rav Ovadia Yosef. Tous les toharim, tous les compliments, le Rav, il y a qui le met, intelligent, Midot extraordinaire, tout ça, toute une série de titres comme ça, ils sont tous effacés au stylo. On peut voir qu'est-ce que c'est. Le Rav Ben Sion ne voulait pas qu'il y ait un livre chez lui à la maison où on le traite de grand chacham, etc., etc., etc. Là, l'humilité. Quand il était jeune gosse, le Rav Ben Sion, donc il allait au Talmud Torah, et un jour, le Rebbe, le prof au Talmud Torah, rencontre le père de Rav Ben Sion, Rabbi Eliyahu, et lui dit, je ne sais pas ce qu'il a ton fils, mais hier, il est arrivé 2 heures en retard au Talmud Torah. Vérifie, c'est pas normal. Un petit gosse de 7-8 ans comme ça qui va dans la rue, c'est des débuts de dépravation, ça, c'est pas normal. Alors Rabbi Eliyahu a appelé son fils, qu'est-ce qui s'est passé hier? Le Rebbe m'a dit, 2 heures, oui papa. J'allais pour aller au Talmud Torah. Du coup, je l'ai vu. Il y avait l'âne du laitier. À l'époque, on n'avait pas de lait comme ça en boîte dans les épiceries. Il y avait le laitier qui passait avec ses deux bidons de lait. Et chacun mettait devant la maison, il mettait son ustensile. Et le laitier venait et versait dedans. Et j'ai vu l'âne avec les deux bidons de lait du laitier. Et le laitier était absent. Et je voyais que du bidon de lait, il y avait un petit trou et le lait coulait. Alors j'ai vite pris au-dessus du bidon, il y a l'ustensile. J'ai pris l'ustensile, j'ai mis dessous. J'ai attendu que l'ustensile se remplisse de lait. Et hop, je remettais dans le bidon, comme ça. 2 heures, ça a pris pour que le laitier revienne. L'amour, non seulement d'Israël, mais de l'argent d'Israël. C'est marqué, on a vu le parashat de Shavua, que Dieu, il a dit à Moshe, va, frappe, parle au rocher, pour qu'il donne de l'eau à Israël et à leurs troupeaux. Dit Rashi sur place, de là que Dieu, il fait attention aussi à l'argent, au bien du peuple d'Israël. Un petit gosse de 7-8 ans rate 2 heures d'école maintenant parce qu'il voit le lait qui coule. Il va dire, le laitier, le pauvre, il va perdre maintenant 3, 4, 5 litres de lait, je peux pas rester comme ça. Le 5e des 10 commandements, honorer son père et sa mère. Terrible commandement. Le Ben Ishraï, pardon, Rabbi Yochanan dans la Gemara, il dit, heureux sont les orphelins. Parce que ils échappent le din terrible, la rigueur céleste terrible qu'il y a au niveau de honorer son père et sa mère. Un jour, le Rabbi Yochanan dira à son fils, j'imagine pour lui montrer l'exemple à quel point il faut faire kibboud avem, sache que de ma vie, ma mère ne m'a jamais rien demandé. Je voyais et devinais à l'avance de quoi elle avait envie, et avant qu'elle ouvre la bouche, déjà j'avais déjà fait ce qu'elle demandait. Quand le Rabbi Yochanan s'est marié, il habitait Katamon. Katamon, c'est l'extrême sud de Jérusalem. Il partait tous les vendredis, à pied, vendredi Shabbat, à pied depuis Katamon, voir ses parents. Ses parents habitaient à Shmuel Hanavi. 1 heure de route à pied, aller, 1 heure de route à pied, retour, pour faire la mitzvah. C'est marqué dans Rabbi Noari, dans la Kabbalah, qu'un mitzvah d'embrasser les mains de sa mère le vendredi soir. 1 heure de route, aller, maman, Shabbat Shalom, embrasser sa main, hop, il retournait. Une fois il est venu au Shiur, il a dit, je suis Mezouaza, plus que cela, bouleversé, j'étais chez des gens, et j'ai vu la fille qui a demandé à sa mère, maman s'il te plaît, passe-moi le sel. Kibboud Avehem, une fille demande à sa mère de lui transmettre le sel. Comprenez de quel niveau nous parlons. C'est la halakha. La halakha, et comme ça il faut faire, comme ça j'essaie de faire dans ma maison, quand le père ou la mère rentre dans la chambre, tout le monde se lève, tous les enfants se lèvent. Alors je fais une fois quand j'entre à la maison, parce que vraiment après c'est bien difficile, quand dans la cuisine tu viens, tu es au salon, cuisine, chaque fois il faut se lever. Le Rav Ben Sion, il prie dans la même synagogue que son père. Dès que son père se levait quelque chose, dès que le père se lève, hop, il se lève. En pleine prière, il était en train d'espérer chaque fois, hop, se lever. Son père se rassied, il se rassied. Le père quitte, il se relève. Comme ça, sans cesse. Qui vous avez aimé, la 5e des commandements, de Oraita. Chacun, avant la fête de Soukhot, va acheter les Arbataminim, Loulav, Etrog, etc. Et tout le monde essaie d'acheter un Etrog le plus beau possible. Même on paye des fois beaucoup d'argent pour un beau Etrog. Maintenant, t'as une mitzvah aussi, ton père te demande, achète-moi aussi un etrog. T'as 2 etrogs. Un très beau, un peu moins beau. Lequel tu prends pour toi, lequel t'envoie à ton papa. Alors, mais c'est une première chose, il voulait un beau etrog. Première chose, envoyer à son père. Après, lui, il cherchait pour lui-même. Il y avait le choix entre les deux, d'abord son père. Pourquoi? C'est très simple. La mitzvah de Horaïta de la Torah de Etrog, qui n'est pas dans les 10 commandements. Mais mitzvah d'avoir le Etrog, très bien. Maintenant, le Hidour d'avoir un beau Etrog, c'est mitzvah de Rabbanan, ou un smart de Horaïta, Zekilivan Veouk, c'est bien de faire une mitzvah qui soit belle. C'est bien! De Horaïta, je rends maintenant mon père heureux avec un Etrog Mehoudar. Où est le rapport? Mais nous, on est égoïste. Nous, on pense maintenant avoir un beau Etrog, aller faire la frime à la synagogue, c'est mon beau Etrog. Lui, il pense à la mitzvah. Kibboud Avehem. La grandeur numéro 1 de Rabbi Ben Sion, c'était sa faculté sa volonté terrible, extraordinaire d'étudier la Torah sans cesse, jusqu'à épuisement total. Sa femme raconte que lorsqu'il rentrait à la maison après un shiur, il n'avait pas la force de parler, pas la force de marcher, ses jambes tremblaient, il se tenait comme ça sur les murs pour pas tomber, tellement d'épuisement. Il est né, il a dit un jour qu'il était, il est né à la date du décès de Rashi, le Yortzat de Rashi. Et que toute sa vie, il a essayé, comme le Rav Sud fait un peu ici à l'Eshiva, le Rav Sud est un élève du Rav Ben Tzion, d'expliquer bien quelle est la méthode d'étude de Rashi. Très souvent, on fait Rashi, on comprend bien. Après, on voit Tosfot qui pose des objections contre Rashi, qui ont dit, mais Rashi, là, comme il n'a pas vu, c'est les questions de Tosfot, c'est impossible de dire comme Rashi. Alors, Rav Ben Tzion, il a dit, dans ma jeunesse, je croyais que Tosfot posait vraiment des questions incroyables sur Rashi. Il a dit, je témoigne, il n'y a pas un Rashi dans toute la Gemara que je n'ai pas solutionné par rapport aux objections de Tosfot. Pas un Rashi. Une fois, je suis resté 18 heures de suite pour comprendre ce que disait Rashi, à la fin que j'ai pu trouver la bonne solution. 18 heures de suite. Il est resté comme ça des heures d'études sur un point dans une sougia. Concentration sans penser à rien d'autre que cela. La concentration, une fois, il était en chiour, et tout à coup, il est devenu blême. Et ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je me suis rendu compte que je me suis déconcentré pendant une seconde. J'ai pensé à autre chose. Blême, il est devenu. Comment se peut-il que maintenant... Il dit, se lève aussi, Tarzik Roche, tiens la tête, ne perds pas le fil. La concentration, le pouvoir de concentration est énorme. Jusqu'au point d'avoir mal à la tête. Faut faire attention. Je vous dis, comment les grands étudiaient, il y avait le Mashgiach de l'Yeshiva de Hebron, s'appelait le Rav Elul Lapian. Un grand sadique, qui avait Gilou Eliaou, et Léon Avi s'est dévoilé à lui, un très grand sadique. Il était borgne d'un œil. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a étudié tellement fort, tellement s'est concentré, qu'une veine, a éclaté. Et un jour, il a pris qu'un de ses amis très fort la Torah, il a pris la voiture en taxi, il est parti 3-4 heures de route pour lui dire, attention, étudie un peu moins, parce que regarde ce qui m'est arrivé à moi, il faut faire attention. Alors, Bessian étudiait, à la fin du cours, il ne pouvait pas se lever. La chemise transpirante. Je demandais une fois, bon, comme on verra par la suite, j'ai encore raconté beaucoup de belles histoires. C'est très clair qu'il avait Ruach HaKodesh. Il avait l'Esprit Saint, il voyait plus que très très bien. Tout. Il a même dit d'ailleurs qu'il ne croyait pas que voir c'est si compliqué. Voir, bon, ok, il faut un niveau. C'est beaucoup plus dur d'avoir une puissance de brachot, de changer le destin de quelqu'un. Il avait un pouvoir même à ce niveau-là. Dans nous tous, on doit savoir quel est le truc. Il y a un truc. Ruach HaKodesh, tu vois tout, tatati, tatata, t'es heureux. D'abord, t'es pas heureux du tout. Il a dit, vous croyez que c'est facile de voir Ruach HaKodesh une fois, il a dit. Il a dit, à la fin de sa vie, il a dit, il n'y a pas un jour où j'ai pas quelqu'un qui vient chez moi, où je vois, il a la maladie, la sale maladie, le cancer, et je vois qu'il a quelques semaines ou mois encore à vivre. Et je vois être sympathique, et aller le consoler. Il était tellement sensible à Rav Ben Tzion. Je me souviens qu'on a eu la chance d'être une fois avec le Seder de Pessah, et ma belle-mère était malade du cancer déjà, dont elle est décédée. Quelques jours avant le soir du Seder, on a appris qu'elle avait la maladie. Elle a dû rester en Suisse, elle n'a pas pu venir. Ma femme, au début du Seder, hop, ça éclate en sanglots, pensant à sa mère qui est malade. Alors, Rav Ben Tzion a vu ça, j'ai vu, il s'est retenu de pleurer lui-même. Sensibilité. Donc il voyait tout. Et c'est pas facile de tout voir. Alors un jour, c'était pourri. Pourri, on est un peu sous. J'étais chez j'ai eu la chance d'être chez le Rav Ben Tzion. Et c'est marqué à Purim, c'est marqué Kol Pochet Yad, Notnim. Donc tout ceux qui tend la main, on lui donne. Donne un tzedaka, faut donner, on ne fait pas de calcul, c'est pourri. Alors on dit aussi en façon imagée, tout celui qui tend la main avec des questions, alors on doit lui donner. Alors je dis Kvod Arav, vous avez Ruach HaKodesh, il m'a dit. Il n'a pas répondu. Comment vous avez fait? Donnez-moi le truc. Purim, tout celui qui tend la main, on doit lui donner. Je lui dis voilà, hein, je tends la main. Il m'a dit, je ne sais pas. J'ai enseigné les élèves, et c'est venu. Moi aussi, j'enseigne des élèves. Il y a des milliers de gens qui enseignent des élèves. Et pourquoi ça ne nous vient pas? Alors, comment ils enseignent les élèves? combien de... Je l'ai vu, moi, il fait comme ça, combien de sueurs pour que les élèves les monter, les grandir, qui deviennent des Talmidei Chachamim. S'il n'était pas certain que le pshat qu'il disait était le vrai pshat, il ne disait rien. C'est très dur. Qu'un jour, on pose une question. Tu peux aller donner un tiroud. Il est trois fois moins bon que toi, il accepte. Mais est-ce que c'est vrai comme tiroud? C'est une vraie solution. Il faut être hyper, hyper authentique. Il finissait son cours, comme je dis, il ne pouvait pas se lever. La chemise était mouillée de transpiration. Et il a dit à Rabbi Nissan que chaque jour, il passait en revue tous ses élèves, tous, voir qu'est-ce qui manque au niveau spirituel, qu'est-ce qui manque au niveau physique. Une pauvreté incroyable, c'est Rabbi Nissan. Je trouve une fois un de ses élèves est venu, Khatan, il l'a enlevé, il avait une montre en or, il a donné, tiens, prends-la. Enfin, ses chemises, il a donné des chemises, il a donné son armoire, tiens, prends deux chemises. L'amour de la Torah et l'amour d'enseigner. Ça donne au Ruach HaKodesh. Bien sûr, avec la Kedusha, la Tahara, la pureté, l'humilité. Une fois, il est venu visiter le fils de Baba Salé, Baba Meir, qui était le Rav Ben Sion Moudirak, m'a dit un jour qu'il n'a jamais vu un Talmid Chacham aussi grand que Baba Meir. Il connaissait toute la Torah. Toute la Torah. Et une fois par mois, les deux étudiaient ensemble, une fois par mois. Comment ça a débuté? Une fois, le Rav Ben Sion est allé visiter Baba Meir. Il est rentré, et ils ont parlé un peu des vrais Torah, comme ci, comme ça. Alors Baba Meir lui dit, qui es-tu? Je m'appelle Ben Sion. T'étudies où? Porat Yosef. Bon, quelques jours plus tard, des élèves de Porat Yosef sont venus voir Baba Meir. Baba Meir lui dit, écoutez, il y a chez vous un élève, qui s'appelle Ben Sion. J'ai beaucoup apprécié comment j'ai parlé. Parler avec lui. Qui c'est ce Ben Sion? Elle se regarde. Ben Sion, tu connais toi Ben Sion? Ben Sion? Mais oui, Ben Sion. Bon, c'est Ben Sion. Peut-être vous parlez de Kvod Arav, le Rav. Le Rav Ben Sion Abashaoul. C'était le Rav de la Yeshiva. Quand Baba Meir a demandé au Rav Ben Sion, qui es-tu? Ben Sion. Où t'étudies? Porat Yosef. Oh, j'enseigne à Porat Yosef. Je suis un Rav à Porat Yosef. Baba Meir a entendu ça, il s'est déjà amouraché du Rav Ben Sion. Et les deux étaient comme ça. Et Baba Meir dira aussi un jour, il a dit comme ça, il a dit, tous les grands de ce monde, tous les grands Talmidei Chachamim ont franchi le seuil de ma porte, aucun n'a égalé Chacham Ben Sion. Il y avait un des grands kabbalistes de cette génération aussi, j'ai eu la chance d'aller à son enterrement, c'était le Rav Mordechai Sharabi, kabbaliste yéménite. Je me souviens d'ailleurs, j'ai vu le Rav Ben Sion venir à l'enterrement. Comment je l'ai vu? Il était dans une voiture, le Rav Ben Sion était assez fort. Il était dans une voiture tellement minuscule, tellement un taco, d'accord? C'était un grand Rav, c'était le Rosh Yeshiva Porat Yosef, d'accord? Il vient, pourquoi? Il vient en Chevrolet, en Mercedes. Lui, il recherche au contraire la hanava, l'humilité. Il vient dans une voiture minuscule qui lente à peine pour. Je me souviens encore. À peine elle avançait cette voiture. Rien qu'en passant pour son humilité. Le Rav Ben Sion n'avait pas de voiture. Il allait en bus. Il était moelle aussi. Il était circoncisé. La circoncision. Il prenait le bus des fois à des heures. Il partait comme ça pour aller gratuitement. Et à tous ceux qui l'ont enseigné de faire circoncision, il a dit, je vous interdis de demander de l'argent pour la circoncision. C'est une mitzvah. On fait pour la mitzvah. Un jour, il attendait le bus. Et le bus s'arrête. Le conducteur jette une serviette au Rav Ben Sion. Tiens, nettoie-moi la vitre. Rav Ben Sion monte sur le pare-choc du bus et commence à nettoyer la vitre comme ça. Du coup, des gens ont vu ça. Quoi d'arabe, descendez. Quoi. Simple. Moi, il m'a demandé de nettoyer. Pourquoi pas? Tu vois, le Gdolador, le grand de la génération. Le grand de la génération. Dans sa petitesse. Dans son humilité. Comme dit la Torah, c'est mon cher Rabbeinu. Et l'homme Moïse est le plus humble de tous les hommes qui sont sur la terre. L'humilité, c'est ça, la grandeur. Donc, j'étais en train d'expliquer que la vraie grandeur de Rav Ben Sion, c'était l'étude de Torah jusqu'à l'épuisement total. Bdikat Hametz. Vous connaissez tous Bdikat Hametz. D'abord, pendant 15 jours, tu bûches comme un dingue dans ta maison. Tu arrives complètement épuisé. Et après, il faut vérifier. Et pas vérifier, il y en a qui font comme ça avec la bougie. Une vérification normale dure entre 2 et 4 heures. vérifié pas un endroit de la maison que tu n'as pas vérifié bien comme il faut. Les gens, après cela, sont complètement ratatinés. Lui, après, il partait à la synagogue et finissait tout Masechet Psachim jusqu'au petit matin. Masechet Psachim, c'est 120 pages de Gemara, jusqu'au petit matin. Il raconte que le vendredi, c'était kadosh chez lui. Le vendredi, il s'enfermait. Du matin jusqu'à ce qu'il y avait la sirène de l'entrée de Shabbat, il étudiait. Et dans les Shabbats longs qu'on a maintenant en été, où Shabbat rentre vers 8 heures du soir, il finit une Masechet entière, il finit un traité entier. Et il dit, les jours de jeûne, c'était génial, pas besoin de manger. Donc tu gagnes au moins une heure de temps. Du matin jusqu'au soir, non-stop, il faisait une Masechet entière. Lui et Hamovadi, alors Wadi Yosef, ils étudiaient Ben Azmanim ensemble. Alors t'as trois semaines de Ben Azmanim, les vacances. Ils étudiaient ensemble 40 pages tous les jours. 40 pages tous les jours de Gemara. Ça fait l'Egdolim. Le Rav, j'ai commencé à dire sur le Rav Mordechai Sharabi, qui était un très grand kabbaliste et qui a bien connu le Rav Ben Sion, il a dit, sachez que le Rav Ben Sion, c'est un homme très très grand, et dans 10 ans, il recevra Ruach HaKodesh. Il a dit ça, c'était en 1973. Comme ça a dit le Rav Mordechai Sharabi, c'était en 1973. 10 ans plus tard, c'est 1983, en plein ce mois maintenant, nous sommes au mois, c'est vers le mois de mai-juin, il y a eu l'enterrement du Gaava, du Afbeddin, le responsable du Badatz, Sfaradi de Jérusalem. C'était le Rav Yaakov Mutsafi, un des grands sages d'Israël. Le Rav Ben Sion a fait là-bas un espèce d'une raison funèbre. Et à la fin de son raison funèbre, il a eu une attaque cérébrale, une hémiplégie. Dès ce jour-là, il boitait, c'est très dur pour lui de parler, etc. Mais dès ce jour-là, le Rav Ben Sion a reçu Ruach HaKodesh. C'est connu. Dès ce jour-là, il a commencé à... On ne sait pas ce que c'est. On dit qu'on voit une très grande neshama qui rentre dans une personne, alors ça fait au niveau physique, ça peut faire des gros problèmes. Dès ce jour-là, le Rav Ben Sion est devenu quelqu'un d'autre. Aussi au niveau des psakim. Avant, il était très peur. Là, il commençait à couper, chlac, sans problème. C'était un des rares. Je me suis plaint il y a quelques jours aussi là-dessus. À l'époque, aujourd'hui, on avait des questions. Rav, il est oui, comme si, comme ça. Lui, il n'y avait pas... Coupé. Des trucs graves. Chlac, sans aucun problème. J'ai demandé une fois au Rav Ben Sion Abba Shaoul, c'est aussi à Purim, à propos de la mystique juive. Il y a beaucoup de Baba, beaucoup de kabbalistes, machin, c'est très à la mode, hein. De Madonna jusqu'à Baba, je sais pas qui. D'accord? T'as toutes les sortes. Kabbalah, c'est très à la mode. Alors, je lui ai demandé, dites-moi, qui aujourd'hui on peut compter sur lui que c'est la vraie Kabbalah? La Kabbalah, la vraie, la bonne. Il me répond pas. Je commence à citer tous les noms que je connais. Il me répond pas. Lui, dites-moi un seul nom. Il m'a dit le Rav Sasson Mizrahi. Sasson Mizrahi, c'était un homme qui travaillait la journée. Il travaillait à l'État pour corriger les mezouzotes qu'il y avait dans tous les bureaux de l'État. La nuit, il étudiait la Kabbalah. C'est un homme d'une simple, une petite barbe, un petit chapeau. À la synagogue, il se mettait au dernier rang. Et quand il demandait une bracha, il s'enfuyait. Il dit, qu'est-ce que vous de moi? Et il partait. Le plus grand kabbaliste du monde. Ce Rav Sasson Mizrahi, un jour est venu, les fêtes, c'est bien les fêtes d'aller voir les grands rabbins, il est allé visiter le Rav Ben Sion Abba Shaoul. En sortant, il a dit à son fils, je viens de voir la face de la Shrina. Sache que ton père, il est Merkava, il est le chariot de la Shrina sur terre. J'ai vu maintenant la face de la Shrina. On ne se rend pas compte quel homme on a eu la chance. Hélas, on n'a pas la chance d'avoir conservé parmi nous. L'amour d'Israël qu'il avait, c'était extraordinaire. J'ai expliqué auparavant, au nom du Rav Ben Sion, que voir, Ruach HaKodesh, c'est une chose qui est relativement simple. Bien sûr que nous n'avons pas, et on imagine qu'on a des milliers de degrés. Mais lui, à son niveau, disait, bon, c'est relativement simple. Ce qui est beaucoup plus haut, c'est arriver à avoir une force de brachot qui, de changer le destin des gens, d'arriver à changer ce qu'en quelque sorte marqué, que tzadik gozer, c'est un tzadik, il décrète, akshubuchu mekayem, Dieu exécute. Mais il faut de la puissance pour faire ça. Dieu a décrété. Ah, et toi tu dis non, moi, ah. Il faut le faire. Alors, un jour, il était en train de faire des brachot à des gens, des bénédictions. Et un monsieur qu'il connaît bien, comme ça, simple, un vendeur de légumes au marché, il dit, moi aussi, je veux faire des brachot, comme vous. Il lui a dit, aime chacun d'Israël, tu auras la même force que moi. L'amour d'Israël. L'amour d'Israël extraordinaire. Une fois, un de ses élèves est tombé gravement malade. Et bien, Baruch HaShem, il a réussi à guérir de cette maladie. Alors, bien sûr, on a dit, des sacs de larmes j'ai versé pour lui. L'amour qu'il avait pour ses élèves. Une autre fois, on l'a demandé, d'où vient votre force de brachot? Il m'a dit, parce que je me suis complètement sacrifié à fond pour mes élèves. La grandeur qu'il avait provenait, j'imagine, de ces deux choses. L'amour qu'il avait de toute personne d'Israël et l'effort de Torah qu'il a fait pour enseigner à ses élèves comment grandir, devenir des Talmidei Chachamim. J'ai parlé auparavant de son humilité. Regardez un peu comment se comportait grand Israël. Quand il était jeune, à Porat Yosef, il y avait un élève qui était juste dans la classe qui était avant, il s'appelait Rav Yehuda Sadka, qui était un des grands d'Israël, aussi un grand Talmid Chacham, Rav Yehuda Sadka, Zecher Tzadik Livracha. Et tout c'était élève du Rav Ezra Atiyeh, qui était le Rosh Yeshiva. Lorsque le Rav Ezra Atiyeh est décédé, il fallait un remplaçant qui soit maintenant le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Dernièrement, il y a un grand Rosh Yeshiva qui est décédé dans une grande Yeshiva à Bnei Brak, et il y a eu une bagarre terrible, 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 entre les deux candidats. Qui serait le Rosh Yeshiva? Les élèves se sont mêlés, la police, Khilou Hashem, terrible, 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 terrible. Là, une discussion. Qui va être maintenant le Rosh Yeshiva de Porat Yosef? Il y a une bagarre terrible entre Hacham Ben Tzion et Rav Yehuda Sadka. Rav Yehuda Sadka dit, toi, Hacham Ben Tzion, tu vas être le Rosh Yeshiva. Hacham Ben Tzion dit, non, tu es plus âgé que moi, tu es un grand Talmid Chacham, c'est toi qui seras le Rosh Yeshiva. Rav Yehuda Sadka répond, toi, tu es un posek, la halakha, tu sais trancher la halakha, donc c'est toi qui vas être le Rosh Yeshiva. Il dit, t'as raison, je suis un posek. Et je tranche maintenant, je pensais que c'est toi qui seras le Rosh Yeshiva. Et comme ça, le Rav Yehuda Sadka est devenu le Rosh Yeshiva. C'est beau, hein? Et quand Rav Yehuda Sadka est décédé, c'est le Rav Ben Tzion qui l'a remplacé. Mais regardez néanmoins à quel point c'était que au niveau du cinéma. Un jour, il y a des gens qui sont venus, des touristes d'Amérique, des donateurs, qui se sont dit, on veut parler au Rosh Yeshiva de Porat Yosef. On va voir le Rav Yehuda Sadka. Et c'est pas le Rosh Yeshiva, allez voir le Rav Ben Tzion. On va voir le Rav Ben Tzion, il dit, c'est pas moi le Rosh Yeshiva, c'est lui, allez voir lui. Ah, ils vont le revoir à lui. Écoutez, on est voir, mais ça dit que c'est vous. Écoutez, cette bande, de quoi vous parlez? C'est vous maintenant, vous voulez que je vous signe en tant que Rosh Yeshiva? C'est moi. Pour les signatures, tout ce qui est officiel. Mais celui qui le roche, la tête de l'Yeshiva, c'est Rav Ben Tzion. On va s'arrêter ici. La suite de votre HM, dimanche, bien heureux.